Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir avec le journal dans quelques secondes. 19h15, la carte blanche de l'entrepreneur Philippe Manière. Le pétrole a encore de beaux jours devant lui, nous dira-t-il. 19h20, dans le Club des Idées, on évoquera ce soir la tentation du clown. C'est la thèse d'un livre politique remarqué qui fait débat. Un candidat hors système pourrait bouleverser l'élection présidentielle. Alors, ça fait écho évidemment à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donald Trump, Zelensky, cet humoriste devenu président ukrainien. Faut-il y voir la victoire d'un ultra-populisme, on en parlera avec nos invités. D'abord, toute l'info avec le journal d'Isabelle Millet. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
C'est une personnalité très particulière. Il avait un comportement depuis quelques temps assez inquiétant, de type paranoïaque.
Deux morts ce matin dans le Gard. Le patron et un employé d'une scierie tué par un homme lourdement armé qui a pris la fuite. Il est toujours activement recherché.
À Avignon, dignité, recueillement pour l'hommage national à Éric Masson. Jean Castex a su trouver les mots pour s'adresser à des policiers meurtris.
La vaccination, c'est parti pour les rendez-vous de dernière minute, du jour pour le lendemain. Sans restriction, le site Doctolib a été pris d'assaut.
Les prix des voitures devrait augmenter, c'est le patron de Renault qui le dit sur Europe 1, la faute à la hausse des prix des matières premières.
En Chine, la croissance démographique au plus bas depuis la politique de l'enfant unique et on verra que ça n'arrange pas forcément les autorités. Et puis les francopholies de La Rochelle, le retour à la vraie vie au mois de juillet, les stars seront au rendez-vous, les restrictions sanitaires aussi.
La météo avec Anissa Haddadi, la journée de demain sera agitée dans l'ouest notamment.
Oui, le long de la façade atlantique, Julien, où une nouvelle perturbation arrive demain, elle apporte des pluies, des orages et du vent fort sur les côtes. Ailleurs, c'est mitigé, partagé entre éclaircies et averses. Et puis prudence dans le sud, le Gard et les Bouches-du-Rhône placés en vigilance orange, inondations et crues.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Depuis ce matin, un village du Gard est calfeutré. Les habitants des Plantiers n'ont pas le droit de sortir de chez eux depuis qu'un homme a tué deux personnes dans la scierie du village avant de prendre la fuite.
Il a abattu le patron de cette scierie, un employé. On sait qu'il travaillait lui aussi dans cette scierie et son profil est inquiétant, Romain Oquet.
Oui, l'homme est un collectionneur d'armes à feu, un tireur sportif inscrit dans un club. À 29 ans, il est déjà connu de la justice pour avoir porté plainte contre l'ancien maire de sa commune où il travaillait. L'année dernière, le trentenaire est embauché dans cette scierie Cévenol. Et selon le procureur de la République d'Alès, François Schneider, un différent professionnel serait à l'origine du drame.
C'est une personnalité très particulière, très procédurière et qui visiblement avait beaucoup de mal à admettre certains faits qu'il avait dénoncés. Il était également en conflit avec son employeur dans la société pour des problèmes d'horaire de travail. Il avait un comportement depuis quelques temps assez inquiétant, de type paranoïaque.
Alors après la fusillade, l'homme armé a pris la fuite dans la forêt qui borde le village. La traque mobilise ce soir encore 200 gendarmes, dont le GIGN et plusieurs hélicoptères. Car le terrain à quadriller est immense, au cœur d'un parc naturel, détaille Maddy Schorer, porte-parole de la gendarmerie.
Il s'agit quand même d'une zone qui est boisée, escarpée. Évidemment, ce sont des conditions qui sont plus difficiles en ce qui nous concerne. Ce sont aussi des conditions qui peuvent permettre à quelqu'un de se dissimuler. Nous nous préparons à une intervention qui peut durer, qui peut s'étendre jusqu'en début de soirée, dans la nuit, etc. Et on prépare les relèves.
Alors en attendant, les 260 habitants doivent rester cloîtrés chez eux, car la difficulté c'est que les gendarmes ignorent le calibre des armes que l'homme possède avec lui. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il a eu le temps de repasser chez lui pour prendre d'autres cartouches.
Merci Romain Oquet pour ces précisions.
Le tombeau des héros et le cœur des vivants, c'est par ces mots empruntés à André Malraux que le Premier ministre Jean Castex a rendu hommage cet après-midi à Avignon au policier Éric Masson.
Oui, hommage national en présence des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Jean Castex a salué un homme bien, un policier exemplaire.
Il a par ailleurs promis, dans la continuité des mesures déjà annoncées, que le gouvernement ne s'arrêterait pas là. Le gouvernement a des devoirs vis-à-vis de sa police, a-t-il dit. Bruno Bartosetti est délégué Sud Unité SGP Police. Il a apprécié ces mots du Premier ministre.
Beaucoup, beaucoup d'émotions. Il a dû s'adresser à nous et il a su vraiment s'adresser aussi à Eric. Il a appelé par son prénom, ce qui signifie bien sûr qu'il avait un regard sur le professionnel, sur le fonctionnaire de police, mais aussi sur l'homme, Eric, qui était un homme remarquable. L'émotion était très forte parce que le Premier ministre, avec beaucoup de précision, a su rendre hommage au policier exemplaire qui était Eric, mais aussi il a su souligner qu'il était un homme exceptionnel. C'était important qu'il puisse s'exprimer sur les deux thèmes, je vais dire, qui sont réunis autour d'Eric. politique. Donc tous ces mots ne sont pas que des mots, c'est ce qui ressort dans le commissariat d'Avignon. Tous ses collègues et amis parlent de la même façon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la place était à l'hommage et ça a été très très bien rendu.
Bruno Bartosetti, délégué Sud, unité SGP Police, au micro européen de Stéphane Frangy à Avignon. Du côté de l'enquête, le tireur présumé et son complice sont actuellement présentés à un juge en vue de leur mise en examen.
Une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers requise contre Nordal Lelandais, jugé pour le meurtre d'Arthur Noyer.
C'est la peine maximale encourue. Nordal Lelandais qui a réitéré ses excuses à la famille du caporal. Les jurés sont actuellement en train de délibérer. Le verdict est attendu sans doute tard ce soir.
À la surprise générale, l'Assemblée nationale vote contre l'article clé du projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire qui comprend le controversé passe sanitaire.
Le MoDem, allié de la majorité, a lâché LREM pour protester contre le flou du texte. C'est un sacré retournement de situation, mais le gouvernement peut encore demander une seconde délibération. La campagne de vaccination, nouveau record aujourd'hui avec 650 000 injections réalisées. 18,5 millions de Français ont désormais reçu leur première injection. Et ce nouveau coup d'accélérateur, depuis ce matin, en effet, des rendez-vous sont ouverts sur Doctolib. Et cette fois, tout le monde peut s'inscrire à Anne Le Gall.
Voilà, mais il faut faire vite. Le site Doctolib a effectivement lancé avec un jour d'avance son système de réservation de dernière minute pour tous les adultes. Et ce soir, il reste une quinzaine de rendez-vous à prendre à Rennes, 80 à Grenoble, une centaine au stade Vélodrome de Marseille, mais plus rien à Paris, ni à Lyon, Bordeaux ou Nantes. Avec ce système, il faut être réactif car 20 000 rendez-vous seulement sont réservables chaque jour pour 23 millions de Français concernés. La règle, c'est donc de ne réserver que les créneaux disponibles le jour même ou le lendemain et les vaccinateurs pourront vérifier la date de prise de rendez-vous. En revanche, explique Stanislas Nioc-Château, cofondateur de Doctolib, inutile de se connecter à un horaire précis comme évoqué il y a quelques jours.
Par expérience, les centres, parfois, ils mettent à jour les disponibilités le matin, l'après-midi, le soir, donc il n'y a pas de règle. En temps réel, vous pourrez savoir s'il y a des créneaux libres, oui ou non, et si vous êtes éligible, oui. Ou non.
Et pour vous inscrire, vous pouvez aussi vous connecter sur le site Vite ma dose. 1 million de rendez-vous ont déjà été pris pour le week-end de l'Ascension. Et d'après les calculs de Doctolib, l'objectif des 20 millions de primo-vaccinés devrait être atteint en France lundi prochain.
Précision d'Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Le ministère de la Santé annonce que le vaccin de Moderna pourrait être utilisé désormais en dehors des centres de vaccination, par les médecins, par les infirmiers, par les pharmaciens, à partir de la semaine du 24 mai.
Et si vous aviez l'intention d'acheter prochainement une voiture, eh bien voici une information qui va vous intéresser.
Et c'est le PDG de Renault, Jean-Dominique Sénard, qui en a fait l'annonce en début d'après-midi sur Europe 1. Attention, les prix risquent d'augmenter.
Il est évident que nos entreprises sont obligées de faire ce qu'il faut pour survivre et donc forcément passer une partie de ces hausses de prix vers le public.
Ça veut dire que vous pouvez nous dire là, sur Europe 1, que le prix des Renault vont augmenter en France d'ici quelques semaines.
En tendance, il faut s'y attendre. Ça serait, vous dire le contraire serait vous dire simplement un mensonge. La réalité, c'est que la tendance inflationniste que nous connaissons là est massive. On l'a rarement vue depuis bien des années. Et forcément, ceci aura des conséquences inflationnistes.
On peut avoir une idée de la proportion?
Non, je ne saurais. Alors honnêtement, je vais vous le dire, et c'est très sincère, parce qu'aucune décision n'est prise aujourd'hui. Mais vous me posez la question, je vous réponds aussi sincèrement que possible.
Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, qui était à la mi-journée l'invité de La France Bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil sur Europe 1. On précise que d'autres produits pourraient augmenter dans les mois à venir, toujours en raison de la forte hausse des matières premières. La SNCF attend 1 million de voyageurs dans les TGV et les intercités à l'occasion du pont de l'Ascension, entre demain et dimanche. 8 TGV sur 10 seront en circulation et même 100% sur les axes Atlantique et Sud-Est.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. La suite du journal, on verra pourquoi les plans des leaders chinois sont contrariés par l'évolution de la démographie dans le pays.
Et puis le programme des francopholies de La Rochelle, de la bonne musique, mais pas trop près les uns des autres.
700 millions de Chinois chantaient Jacques Dutronc en 1966, le fameux « et moi, et moi, et moi ». Ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui. 54 ans plus tard, ils sont deux fois plus nombreux précisément.
1 milliard 411 millions. La Chine reste le pays le plus peuplé du monde, mais sa démographie ralentit et ça remet en cause le modèle économique du pays, Jean-Sébastien Soleini.
Ça pose problème pour ce qui est souvent présenté comme le miracle économique chinois. Une démographie jusque-là galopante, c'était plus de monde dans les usines pour produire et ainsi mécaniquement doper le PIB, ce qui sera moins possible à l'avenir. C'est aussi un niveau de consommation qui risque de caler, notamment dans le luxe où la France est assez présente. Et puis ce qui ressort de ce recensement, c'est que le pays vieillit. Antoine Bondaz est spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il remarque qu'en termes d'affichage sur la scène internationale, ça peut faire tâche.
L'âge médian, par exemple, en Chine, désormais, il est supérieur à celui aux États-Unis. En Chine, il y a la moitié de la population qui a plus de 39 ans. L'âge médian aux États-Unis, il est 38 ans. Et donc, très clairement, la dynamique de la démographie n'est pas en faveur de la Chine aujourd'hui, elle est plutôt en faveur des États-Unis. Et donc, dans le rapport de force sino-américain, évidemment, il peut y avoir un impact en termes de perception.
Et il y a aussi la compétition avec l'autre géant démographique, l'Inde, qui, avec son 1,3 milliard d'habitants, ne devrait plus tarder à dépasser la Chine. Et ça, même si ça ne va pas bouleverser les choses, Pékin l'a bien compris et adapte son narratif. Depuis quelques temps, ce n'est plus la taille de la population qui est mise en avant, mais bien le PIB par habitant. Et là, la Chine a encore de la marge.
Merci beaucoup pour ces précisions, Jean-Sébastien Soldaini.
C'est l'un des plus grands festivals de l'été dont on vous parle maintenant. Il aura bien lieu, contrairement à d'autres, la 36e édition des Francofolies à La Rochelle. Ce sera du 10 au 14 juillet prochain.
Avec un programme alléchant, Angèle Châtelier, mais forcément des contraintes dues à la situation sanitaire.
Oui, il sera impossible d'entrer dans l'enceinte du festival sans un certificat de vaccination ou un test PCR négatif. Et une fois à l'intérieur, ne vous attendez pas à danser collé serré avec les autres festivaliers. Car la règle, c'est 5000 personnes maximum assises. Mais Gérard Pont, le directeur du festival, est à fond, dit-il, heureux de se projeter, même s'il a fallu adapter la programmation aux contraintes sanitaires.
On a pris en compte le fait que nos festivaliers seraient assis et que donc il valait mieux essayer de trouver des artistes qui puissent correspondre à cette situation assise. J'espère que le public sera là, quoi. J'espère qu'on aura tous envie d'être au rendez-vous. Enfin, en tout cas, nous, on y sera.
De nombreux artistes seront prêts à jouer le jeu. Laurent Voulzy, Francis Cabrel, Marc Lavoine, Pomme, Suzanne ou Jane Birkin.
Elle se fabriquait des histoires.
Sans compter l'électro pour danser aussi, comme celle de Kid Francescoli. Et un festival, ce n'est pas que des têtes d'affiche, mais aussi des découvertes. Il y aura une quarantaine de groupes émergents aux Francofolies de La Rochelle cette année. Parmi eux, November Ultra à la voix douce, qui n'a pour l'instant sorti que 3 titres et cumule déjà des centaines de milliers d'écoutes.
It takes a lot for me to say, but I want you to stay with me.
Découvrir donc aux Francofolies de La Rochelle. Rendez-vous entre le 10 et le 14 juillet.
Merci Isabelle. C'était le journal Isabelle Millet. Ça fait du bien, un petit peu de douceur. Hein. N'est-ce pas, Anissa ?
On peut la garder, cette musique, elle était jolie, très belle. Pour annoncer une mauvaise nouvelle,
voilà,
c'est bien.
Pour annoncer de la pluie, de l'orage et du vent qui nous vient de l'ouest. Ben merci.
Hein. Ouais, bon programme
pas
pour
bravo,
demain.
Comme dirait l'autre.
Bon, alors on va d'abord commencer par une bonne nouvelle puisque les conditions météo s'améliorent et se calment au bord de la Méditerranée demain avec la fin des orages. Prudence tout de même puisque les Bouches-du-Rhône et le Gard sont placés en vigilance orange crue inondation. Et c'est là qu'arrive votre beau programme, Julien, que vous nous avez donné. Puisque c'est à l'ouest que le temps va se dégrader, le vent se renforce nettement hein, sur l'arc atlantique demain. Les pluies arrivent d'abord sur la Bretagne, puis jusqu'en Gironde et même jusque sur le Pays Basque dans l'après-midi. Bref, c'est toute la façade atlantique qui sera sous l'eau et sous le vent. Ailleurs, bah, c'est très mitigé. Une journée partagée entre nuages et éclaircies. Pour faire simple, c'est en Provence et sur la Côte d'Azur que la journée sera la plus belle demain. Oui. Les températures toujours fraîches, 4 à 11 degrés. Je vous rappelle, alors ça me tient à cœur, mais je vous rappelle qu'on est en plein cœur des Saintes Glaces. Hein, donc ça baisse. Et c'est normal. Ne faites pas cette tête, Julien.
Philippe Manière qui est comme moi, qui est complètement abasourdi.
Et 12 à 20 degrés demain après-midi. 12 pour Brest, 18 à Paris et 20 degrés à Marseille. Allez, encore un peu de patience. Le week-end de l'Ascension va être bon.
Et qu'est-ce qu'on plante humide aux Saintes Glaces? Est-ce que vous le savez?
Ah non, qu'est-ce qu'on plante?
Des pieds de tomates.
Ah, bah, très
Anissa.
Bien, bah, je vais
suivre
vos conseils.
Mais attention quand même à la fraîcheur.
Bah, j'y vais tout de suite là. Les
merci
planter.
Anissa.
À demain.
Dans quelques secondes, évidemment, à demain. Dans quelques secondes, le débat du Club des Idées, on évoquera la montée des populismes et la tentation du clown aussi. Vous comprendrez pourquoi. D'abord, la carte blanche. Et c'est vrai que ce soir, c'est l'entrepreneur, vous l'avez compris, Philippe Manière, qui est à mes côtés.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un peu. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Philippe Manière.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, mon cher Philippe, vous nous parlez du pétrole avec nostalgie. Ce n'est pas tellement dans l'air du temps, Philippe.
Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt haro sur le pétrole, hein, cette méchante énergie fossile qui rejette beaucoup de dioxyde de carbone quand on la brûle. Burk, c'est pas bon pour le climat et c'est vrai. Pourtant, l'or noir fait de la résistance. Il cote aujourd'hui 68$ le baril, c'est-à-dire exactement la même chose que juste avant la crise Covid. Oui. Et c'est même 30% de plus qu'il y a 5 ans. Vous voyez, Julien, que le monde d'après, en tout cas le monde d'après le pétrole, ben on n'y est pas.
Je me souviens, entre parenthèses, qu'on nous prédisait un baril à 200 dollars le baril.
Ah mais on a tout prévu, vous savez, 200, 5, on a tout eu. D'ailleurs, on a vu jusqu'à 68, 10, voilà, et puis c'est monté jusqu'à 100 et des plus chers. Mais là, 68, bas. Et c'est le même niveau, encore une fois, qu'il y a 3 ans. Et ce qui s'est passé ce week-end aux États-Unis montre à quel point nous sommes restés dépendants. Vous avez peut-être vu que l'opérateur d'un énorme oléoduc américain qui apporte du Texas à la côte Est, la bagatelle de 380 millions de litres de pétrole par jour, a été victime d'une cyberattaque. L'huile, comme on dit, a cessé de couler. Et puis, du coup, bah, de Washington à Boston, c'est la panique. On ne sait pas s'il y aura de l'essence à la pompe quand les Américains vont entamer ce qu'on appelle la driving season. Hein, c'est dans quelques jours et c'est politiquement très sensible.
Alors, Philippe, pourquoi le pétrole fait-il aujourd'hui de la résistance ?
Alors, la principale raison, c'est que si le pétrole a tous les défauts qu'on sait, il a aussi beaucoup, beaucoup d'avantages. Un, il est très dense en énergie. Deux, sauf bien sûr quand l'oléoduc est bloqué par les cybercriminels, il est transportable facilement et à bas coût. Trois, il se stocke très bien. Vous savez que c'est une grande différence c'est avec l'électricité. Et quatre, surtout, il est d'un usage incroyablement aisé. Du point de vue des producteurs d'électricité, gaz et pétrole sont les plus pilotables des énergies, comme on dit, bien plus pilotables que tous les substituts. Vous tournez le robinet et hop, ça produit ou ça ne produit pas. Puis du point de vue du particulier, c'est encore plus spectaculaire. On est tellement habitué qu'on ne se rend même plus compte. Mais pensons-y, en 3 minutes, vous faites un plein qui vous permet de faire Paris-Nice, retourner le problème dans tous les sens. Il n'y a aujourd'hui rien de comparable.
Alors, ça reviendra, la voiture électrique, mais ça reviendra, la voiture électrique est en plein boom.
Oui, alors sûrement ça viendra, mais aujourd'hui, il y a encore, vous le savez, un gros problème de disponibilité des bornes de recharge, surtout hors des villes, surtout en période de pointe, comme par exemple les départs en vacances. En plus, même avec les meilleurs chargeurs, il vous faut encore une petite demi-heure pour faire un vrai plein. Une demi-heure, c'est long. Et puis, Julien, on est en train de se rendre compte qu'en basculant d'une énergie à l'autre, eh bien, on passe aussi d'une dépendance à une autre, voire qu'on accroît notre dépendance. Et oui, le pétrole et le gaz venaient traditionnellement du Moyen-Orient ou de la Russie, c'est pas top. Mais aujourd'hui, avec le gaz de schiste, tout a changé. Par exemple, les États-Unis sont devenus totalement autosuffisants, ils n'importent plus. Et en face, les métaux rares qui sont nécessaires aux batteries électriques, ou encore le cuivre qui est nécessaire au raccordement des éoliennes, bah, eux, ils sont très mal répartis géographiquement. Par exemple, le Chili, le Pérou et la Chine contrôlent la moitié des réserves de cuivre mondiales et 60% du cobalt, 60% vient de la seule République démocratique du Congo, dont on sait qu'elle n'a pas grand-chose de démocratique à part son nom. Alors tout cela inquiète même l'Agence internationale de l'énergie qui vient de sonner l'alerte et qui recommande la constitution de stocks de protection de lithium, de cuivre, de cobalt. Vous voyez, Julien, que même si elle advient, bah, la fin du pétrole, ce ne sera pas la fin des ennuis.
Merci Philippe Magnin pour cette carte blanche. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes. Le Club des idées, grand débat ce soir sur la tentation du clown. On en parle avec nos invités, à tout de suite. Et ce soir dans le Club des idées, faut-il craindre des candidats hors système qui viendraient chambouler en somme le paysage politique ? C'est donc l'idée qui commence à émerger face à une société fracturée. 40 ans après la candidature avortée de Coluche à l'élection présidentielle, on s'en souvient, à l'image de Donald Trump aux États-Unis ou encore du comique Zelensky qui a pris les rênes de l'Ukraine. C'est aussi l'une des craintes mises en avant dans le dernier rapport de la CIA. Alors un candidat type Jean-Marie Bigard, Éric Zemmour ou encore Michel Onfray, est-il possible chez nous en France ? On en parle ce soir avec nos invités. Laetitia Krupa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, auteur de La tentation du clown, comment un candidat hors système va bouleverser. Vous ne posez pas la question, vous dites va bouleverser l'élection présidentielle.
Et oui, après un an d'enquête, effectivement.
Aux éditions Buchet-Chastel, on en parlera évidemment avec nous. On en parle aussi avec Piotr Smolar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde, en charge de la diplomatie, et c'est vous qui avez préfacé le livre « Le monde en 2040, vu par la CIA », c'est absolument passionnant. « Un monde plus contesté », c'est aux éditions Les Équateurs, et c'est sorti tout récemment. Et on en parle également avec le sociologue Michel Vivorca. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous dans le débat du Club des idées. Alors, d'abord, Laetitia Krupa, c'est possible ça, l'émergence et la victoire d'un candidat hors système à l'Élysée en 2022 ?
Je vous dis oui, donc après un an d'enquête, et ce n'est pas juste le résultat de ma petite réflexion personnelle. Je suis allée voir 50 experts dans leur domaine, hein, sociologues, historiens, politologues, sondeurs, journalistes,
Il y a plein de choses. Journalistes, vous expliquez d'ailleurs les ressorts de cette montée aussi du populisme, avec des comparatifs en Europe et puis ailleurs dans le monde. Et vous commencez par une citation de Robert Badinter. Vous dites, c'est le début de mon livre, c'est le début de ma réflexion et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de m'y intéresser. Robert Badinter qui dit « La France me fait peur, elle me semble prête pour le populo-fascisme. Un jeune tapis d'extrême droite pourrait bien être élu président de la République. » Il termine avec ce mot « l'horreur ».
Oui, ça m'a intéressé parce que Robert Badinter, c'est l'époque Mitterrand et souvent on taxe les chercheurs, les experts en fait qui sont sur cette hypothèse de l'émergence d'un clown, un peu de nouveau monde, voyez, de gens qui manquent peut-être d'ancrage historique ou qui négligent un petit peu le poids de l'histoire et le poids des traditions politiques en France. Or, Robert Badinter, on peut pas...
Oui.
Hein, dire que
morale, il a, d'une certaine manière.
Voilà, exactement, il a tout vécu, il a vécu l'ascension de Bernard Tapie et c'est pour ça qu'il le cite en exemple. Et évidemment, Bernard Tapie, au même titre que Coluche, tout de suite dans l'inconscient collectif, dans le folklore aussi, dans le paysage audiovisuel, ça dit quelque chose aux gens. Donc oui, c'est tout à fait possible qu'un candidat hors système, je l'appelle clown,
oui.
Parce que j'ai choisi de l'appeler clown, c'est un terme qu'on a dans le jargon politico-médiatique, mais aussi que nombreux sont ceux hors de nos frontières à être élus alors qu'ils viennent de la télévision.
C'est vrai que c'est le surnom qu'ont donné un temps les médias à Boris Johnson aux États-Unis quand il était candidat pour devenir Premier ministre. Bojo le clown.
Oui, c'est la BBC qui l'a surnommé comme ça. Et puis Trump aussi était traité dans les pages divertissement au tout départ de la campagne. Trump était traité de clown aux États-Unis.
Réaction Piotr Smolar, vous avez une vue d'ensemble peut-être plus internationale, mais d'abord sur... la condition française, est-ce que ça vous semble possible l'émergence d'un candidat comme ça hors système dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle ?
Bon, d'abord, par principe, je n'aime pas beaucoup participer au Café du Commerce et m'exprimer sur des sujets que je ne maîtrise pas et sur lesquels je ne travaille pas. Juste une remarque, c'est qu'au cours de la dernière élection présidentielle en France, le vainqueur était déjà en quelque sorte un pied en dehors du système. Emmanuel Macron a réussi à... accélérer l'implosion des deux principaux partis politiques français, le Parti socialiste et les Républicains, anciennement UMP. Donc, deuxième chose, je me méfierais aussi des prévisions, quelles qu'elles soient, et particulièrement par temps de Covid. Nos sociétés sont actuellement en quelque sorte prises sous la glace du Covid. Et on n'a pas encore mesuré tout l'impact de ce traumatisme historique, économique, social, psychologique. Par conséquent, faire des prévisions politiques, même en interrogeant les 50 meilleurs experts du système solaire, me paraît délicat comme entreprise.
Donc c'est une hypothèse. Je vais défendre le travail que j'ai fait. C'est une hypothèse pour justement ne pas avoir à analyser après coup. Vous voyez que le lendemain, comme ça s'est passé aux États-Unis, on se dise oh, « mais que s'est-il passé ? On va refaire le film ». Je préfère faire le film avant, poser l'hypothèse sur la table et ensuite que nous allions tous voter de façon éclairée. C'est un peu ça, en fait, l'idée du livre.
Et on parlera, Piotr Smolar, parce que si ça n'est pas encore le cas en France et que l'hypothèse, pour l'instant, est encore en l'air, ça s'est passé quand même ailleurs à l'étranger, notamment à l'international. Et c'est en creux. Ce que raconte aussi Le Monde en 2040, vu par la CIA, un monde plus contesté. Alors il y a plein de choses dans cet ouvrage dont vous signez donc, je le rappelle, la préface, mais il y a aussi la construction et l'émergence des populismes à travers le monde. Je voudrais simplement, avant qu'on marque une première pause, donner la parole à Michel Wiewiórka. Vous êtes sociologue, observateur de la société française et de la politique française. Est-ce que ça vous semble d'abord comme ça crédible, possible ?
Pour moi, c'est très peu vraisemblable. Il ne faut jamais dire impossible, parce qu'en politique, on a souvent d'énormes surprises. Ça me semble peu vraisemblable,
pourquoi ?
Et je vais dire pourquoi. Alors d'abord, comme Piotr Smolar, que je salue, c'est un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, donc je suis très content de le saluer. D'abord, nous avons non pas un quasi-clown, mais deux. Nous avons un système politique qui n'a rien à voir avec ce que nous avions il y a quelques années. Nous avons deux personnages qui sont, le fruit de l'histoire récente, alors que les vieux acteurs, les partis plus classiques, sont en grande difficulté. Donc, premièrement, nous en avons deux. Deuxièmement...
Quel est le second, pardon ? Emmanuel Macron...
C'est Marine Le Pen. Bon. Deuxièmement... quel que soit le clown dont il s'agit, ce sont des gens qui ont fait un énorme travail politique avant d'arriver là, qui se sont préparés. Ça n'est pas des choses qui se règlent comme ça facilement. Pourquoi ?
Parce que si on est dans une situation de vide politique, s'il n'y a pas de leader susceptible de l'emporter, alors oui, un clown peut surgir, on l'a vu effectivement en Ukraine, et je crois que ça arrive de temps en temps, un acteur, un sportif, un boxeur, etc. Bon, bien sûr. Bien sûr. Mais là, le paysage est tout à fait autre. On a deux. Je dirais que le problème, il est, enfin, à mes yeux, il est dans l'affrontement qui se prépare et pas du tout donc, dans l'hypothèse d'un outsider qui surgirait à la Coluche, si vous
voulez. Merci pour cette première introduction, Michel Vivorquet. On marque une courte pause et on se retrouve avec nos invités dans quelques secondes. À tout de suite. 19h30 passé de 1 minute, la suite du Club des idées. Faut-il craindre des candidats hors système qui viendraient chambouler le paysage politique? Alors c'est vrai, Piotr Smolar, vous êtes journaliste au Monde en charge de la diplomatie et c'est vous qui avez préfacé le livre Le Monde en 2040 vu par les CIA, un monde plus contesté. C'est vrai tout de même que quand on regarde un peu ce qui se passe du côté de nos voisins européens et puis un peu plus loin, il y a des candidats hors système qui ont déjà été élus. On pense évidemment au plus célèbre d'entre eux, Donald Trump, le 5 janvier dernier.
Nous nous battons comme des diables. Et si vous ne vous battez pas comme des fous, vous n'aurez plus de pays. Nous allons marcher sur Pennsylvania Avenue. J'adore Pennsylvania Avenue. Et nous allons aller au Capitole. Et nous allons essayer de donner aux républicains le genre de fierté et d'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays.
Alors, on connaît évidemment la suite de l'histoire avec l'invasion du Capitole. Et puis, il y a aussi son alter ego, d'une certaine manière, en Amérique latine, le président Jair Bolsonaro, en novembre dernier, qui dit parfois des horreurs dans ses discours, le président brésilien.
Je regrette les morts, je les regrette. Nous allons tous mourir un jour. Ça ne sert à rien de fuir cela, de fuir la réalité. Il faut arrêter d'être un pays de PD.
Voilà, quelle horreur d'entendre des choses comme ça de la part d'un chef d'État d'un grand pays. Il y a aussi le président ukrainien. Alors lui, pour le coup, c'est un clown, un vrai clown. Il est humoriste, il était comédien. Il a été élu président, Volodymyr Zelensky. Donald Trump était ancienne vedette de télé-réalité, je le rappelle. Pepe Grillo, humoriste italien, qui a lancé en 2009 le mouvement 5 étoiles. Et puis, en 2014, au Guatemala, c'est un comédien populaire, Jimmy Morales, qui est sacré président de la République. Vous racontez d'ailleurs dans votre livre, Laetitia Krupa, l'histoire de ce député brésilien qui, en 2010, il s'appelle Thierry Kika. Il scandait deux slogans en permanence pour être élu. Il disait aux Brésiliens « Vous ne savez pas ce que fabrique un député ? Ben moi non plus. Alors élisez-moi à Brasilia et je vous raconte tout ça. »
Ah oui, c'était 10 ans avant Bolsonaro.
Il
se présentait comme un clown analphabète. Ouais. Il a été élu.
Il a été élu député à l'Assemblée, l'équivalent de l'Assemblée nationale à Brasilia, au Brésil. Il y a quand même partout dans le monde une montée de ces clowns et de ces populistes, Piotr Smolar.
Oui, il faut faire attention effectivement aux mots qu'on emploie, à la définition de ces termes-là, parce qu'un clown est un populiste, mais un populiste n'est pas forcément un clown. Si vous prenez, par exemple, Benjamin Netanyahou en Israël. Benjamin Netanyahou, puisque j'ai vécu en Israël, j'étais correspondant du Monde pendant 5 ans, Netanyahou incarne totalement l'aristocratie politique israélienne depuis des dizaines d'années. Et pourtant, au fil des années, notamment ces dernières années, il s'est transformé aussi en orateur populiste, jouant sur les instincts les plus vils que peuvent ressentir les citoyens israéliens. Donc attention à la définition des termes.
Qu'est-ce qu'un populiste d'ailleurs, Piotr Smolar ?
Moi, je dirais il y a beaucoup d'éminents sociologues et d'éminents experts qui ont travaillé sur la question. Moi, je retiendrai deux critères essentiels. Le premier, c'est un discours anti-élitiste, que par définition, la parole des élites, qu'elles soient économiques, politiques ou même scientifiques, regardez Donald Trump comme il a mis en cause systématiquement les scientifiques dans la crise du Covid.
Oui.
Développement d'un discours anti-élitiste. Et l'autre, c'est anti-contre-pouvoir. Et les contre-pouvoirs, que ce soit des contre-pouvoirs institutionnels, politiques, ou alors les médias. Discours anti-média mainstream, si vous voulez. Donc, ça, ce sont vraiment les deux caractéristiques générales. Souvent, on retient d'autres caractéristiques, par exemple l'autoritarisme, ou alors la place accordée aux questions identitaires, qui sont aussi très fortes, si vous prenez par exemple le cas de Kaczynski à la tête du parti PiS en Pologne, ou Viktor Orban en Hongrie. Voilà. Donc c'est un mouvement qui est vraiment polyforme, le mouvement populiste, qui a beaucoup d'incarnations et de profils différents.
Mais on voit que dans l'évolution de cette accession au pouvoir de certains mouvement et leader populiste, il y a, pardon de leur dire, mais l'émergence de clowns désormais, de vrais clowns, au sens des candidats hors système, qui n'ont pas d'appareil politique derrière eux, qui n'ont pas l'expérience de la politique, qui se présentent, qui jouent le coup de poker et qui sont élus.
Oui, mais alors, par exemple, bon, j'ai un problème, comment dire, comme spontané, comme ça, un peu éruptif, avec le mot clown, parce que qu'il aplatit un peu les réalités. Si vous prenez Trump, vous aviez raison, madame, au début, il n'était pas considéré sérieusement, pas comme une figure politique, mais Trump était assis sur des réseaux d'influence et sur énormément d'argent. Et il a été investi par le Parti républicain qui incarne la légitimité de la droite américaine. Donc on ne peut pas dire qu'il était complètement...
Pepe Rio, de ce point de vue-là, est un vrai candidat sorti de nulle part.
Exactement, comme Zelensky d'ailleurs en Ukraine, qui a fondé un parti ex nihilo. Là, effectivement, ce sont des figures nouvelles, on peut le dire. Mais ce qui me paraît très intéressant dans le livre que j'ai préfacé, ce rapport de la communauté du renseignement américain, c'est qu'ils annoncent le pire pour les années qui viennent, pour le futur de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce qu'ils insistent sur l'érosion probable de la notion de confiance dans nos démocraties. La confiance en quoi ? La confiance en nous, en ce que nous sommes, la confiance dans nos responsables politiques, dans les élites, et la confiance aussi dans les médias. Et que ça, c'est vraiment avec la multiplication des objets connectés, notamment. Oui. Le fait qu'on va être de plus en plus bombardés, reliés entre nous, mais en même temps dans la défiance systématique. Oui. On va rechercher, c'est ce qu'explique le livre très bien, on va rechercher le compagnonnage de gens qui pensent comme nous. C'est déjà le cas aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, et ça risque d'être encore plus le cas à l'avenir, c'est-à-dire que la société va se diviser en silos. Et ce qui va être très compliqué, c'est de trouver de la colle commune pour faire la citoyenneté de demain.
Oui, et c'est un élément fort intéressant, très très intéressant, qui revient dans votre livre, Laetitia Krupa, auteure de cet ouvrage qui s'appelle « La tentation du clown », et ça nous ramène évidemment chez nous en France, l'éloignement des politiques avec les Français. Alors vous citez l'enquête sur la décennie 2009-2019 du CEVIPOF qui montre que 79% des Français expriment des sentiments négatifs envers les politiques, 39% de la méfiance, 28% du dégoût. En 10 ans, 85% des personnes interrogées ont considéré que les responsables politiques ne se préoccupent pas d'elles. C'est inquiétant et c'est ça aussi qui fait le terreau et le lit du populisme.
Bien sûr, et plus d'un Français sur deux considère que la politique ne doit pas revenir à des professionnels. Donc, tout est ouvert. Et donc, la question que je pose dans cette enquête, c'est à partir du moment où cette défiance envers les élites est manifestement magistrale, qui veut-on pour nous représenter ? Il y a une crise de la démocratie représentative. On ne fait plus confiance dans nos élites et donc on ne les juge plus légitimes pour nous représenter. Alors, si ce n'est pas un politique, c'est qui ? Et je pose cette question. Vous avez cité beaucoup d'exemples à l'étranger. Il y a aussi le président tunisien qui est un prof de droit constitutionnel, mais totalement inconnu du grand public, qui part avec sa petite voiture, un staff de 10 personnes qui ne sont pas du tout des professionnels et qui réussit à remporter la mise. Et face à lui, il y avait un autre homme hors système qui était un businessman qui a passé la moitié de la campagne en prison. C'était en Tunisie en 2019 et le mode de scrutin est le même que chez nous. Donc je pose juste la question, la France, pourquoi serait-elle exempte ? Pourquoi serait-elle épargnée par cette vague populiste ? Car tous mes clowns sont populistes.
Alors, on va poser la question au sociologue Michel Vivorca, qui est toujours avec nous. Michel Vivorca, est-ce que cette défiance des Français vis-à-vis des politiques, c'est quand même un terreau fertile, propice à l'élection d'un populiste chez nous en France ?
Alors moi, je voudrais regarder les choses un petit peu autrement. Vous avez demandé tout à l'heure à Piotr Smolar une définition du populisme. Qu'est-ce que le populisme ? Je crois qu'il faut partir de là. Je pense qu'on peut dire énormément de choses sur le populisme, que c'est un discours effectivement contre les élites, c'est un discours qui veut qu'il n'y ait plus rien entre le peuple et son leader, d'où le goût de la démocratie directe. On peut dire ce genre de choses. Et je crois surtout qu'il faut dire un point de plus. Le populisme, ça ne résiste pas en tant que tel à l'accès au pouvoir. Et ça donne autre chose.
Et ça donne quoi ? Ça peut donner de l'autoritarisme, ça peut donner de la dictature. Et par conséquent, je voudrais insister sur ce point. Nous oui. sommes dans la phase, nous sommes dans l'époque historique où nous nous demandons si nous n'allons pas avoir des clowns, nous nous demandons si Bigard ou je ne sais qui, ou Onfray, enfin des clowns, ne risquent pas de, d'être candidat, ou Zemmour ne risque pas d'être candidat et rafler la mise. Je pense que c'est une, puisqu'on est sur 2040 avec la CIA, oui. Je pense que c'est une vision à trop court terme ou à trop courte vue. Oui, c'est vrai que c'est pas totalement impossible. La réalité, c'est l'autoritarisme qui menace, c'est la crise de la démocratie remplacée par un pouvoir fort. Et vous savez, on parle de clown. Enfin, ces derniers temps, on a vu deux listes, enfin deux pétitions. Signé par ce qu'on pourrait aussi appeler des clowns. Et donc, je ne le ferai pas moi-même. Donc, enfin, vous voyez, cette idée
des gens anonymes.
Dont des clowns anonymes. Et par conséquent, moi, je voudrais insister sur une chose.
Oui.
Si vous prenez, et Smollard a eu raison de le dire, si vous prenez Trump, il a conquis un appareil politique pour être élu. Si vous prenez Bolsonaro, il s'est installé dans un contexte de décomposition totale de la vie parlementaire au Brésil, dans un contexte de poussée fascisante. Enfin, il a été quand même porté par quelque chose et ça donne de la dictature. Si vous prenez, on a parlé tout à l'heure de Bojo, de Boris Johnson, mais enfin, c'est un animal politique, c'est pas quelqu'un qui surgit de n'importe où.
Oui.
Et donc oui, vous avez des gens qui... Et on a parlé de Tapie. Enfin, Tapie n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite.
Oui, mais BP Grillo, excusez-moi monsieur, mais BP Grillo est sorti de nulle part, il a créé son mouvement et ça fait 15 ans qu'il y a du populisme en Italie. Ils sont encore au gouvernement.
Alors,
je vous donne
point,
raison,
je vous donne raison,
mais je vous ferai remarquer que BP Grillo n'a jamais réussi à être président.
Non, parce qu'il avait été condamné.
Bon,
donc il n'a jamais cherché parce qu'il a une condamnation.
Allez.
Parce qu'il était dans un accident de voiture.
Enfin,
on
laisse,
finissez Michel Vivorca et puis on fait voilà.
Donc ce que je veux dire, c'est que oui, il peut y avoir dans le débat public un moment où on se demande si le vide, les insuffisances, les carences du système politique ne vont pas déboucher sur des clowns.
Oui.
Je pense que ça peut arriver, c'est pour ça que je n'ai pas dit que ça n'arriverait pas. Ça me semble peu probable parce que si c'est ça... Ou bien les choses vont se décomposer encore plus et on ira vers de l'autoritarisme, et on aura Marine Le Pen en tout cas, ou bien elle ne se décomposera, elles cesseront de se décomposer, on verra se reconstruire un système politique, mais je ne vois pas un espace durable pour des clowns. C'est pour ça qu'on un jour on nous parle de Bigard ou d'un autre,
oui.
Et puis ça retombe.
Alors. Piotr Smolar.
Oui, c'est devenu un truisme aujourd'hui dans les débats de parler de la fragmentation de nos sociétés. Elle est évidente. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans l'effort de projection de la communauté du renseignement américain exposé dans ce livre, c'est l'importance des sauts technologiques à venir dans cette fragmentation. Ça veut dire quoi ? On va aller, le temps va se compresser. On va aller vers des accélérations dans l'innovation comme on n'en a jamais eu dans l'époque moderne. Ça va être fou. En termes de biotechnologie, en termes d'intelligence artificielle, le monde de demain sera totalement différent de celui dans lequel on vit. Et nos enfants écouteront nos récits sur notre vie quotidienne.
Le nôtre est tellement différent de celui
dans
lequel on a grandi.
Mais ces sauts-là vont être absolument hallucinants. Vont
je
permettre.
Qu'il n'y avait pas de téléphone mobile quand on est né, vous et
c'est,
moi.
C'est ni vrai. L'internet. Je me souviens des téléphones à cadran.
Ni l'internet.
C'est vrai. Mais ouais. mais là, même en fermant les yeux, vous n'imaginez pas à quoi va ressembler le monde sans doute de 2040. Et ces sauts vont permettre des progrès considérables dans la médecine, dans l'exploitation des sols. Mais il y aura aussi énormément de casse sociale, hélas. Beaucoup de gens vont perdre leur emploi avec l'automatisation, avec l'intelligence artificielle qui va submerger beaucoup de secteurs d'activité. Et que ça, c'est aussi une chose que les gouvernants aujourd'hui doivent prendre en compte.
Ce sera un monde de progrès social et de progrès tout court ou un monde de chaos ?
Ça sera un monde de progrès technologique et le progrès étant toujours ambivalent. C'est-à-dire le progrès est aussi chargé de risques éthiques. De risques de double emploi, par exemple, à des fins militaires de certaines technologies modernes. Et donc, il faut faire... Il n'y a pas de réponse claire en noir et blanc à votre question. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour ne pas répéter certaines erreurs, les gouvernants devront prendre cette révolution industrielle à venir en compte pour éviter que trop de gens finissent par se retrouver en rupture totale avec avec les élites, avec ceux qui gouvernent. Il faut éviter qu'on ait un petit groupe de vainqueurs et un très grand nombre de perdants.
Et ça peut être le terreau aussi de la montée des populismes ou d'une nouvelle forme d'autoritarisme. Alors Laetitia Krupa, pour revenir à votre livre, parce qu'il y a un point de convergence dans tout ça, c'est la médiatisation de masse. Vous dites, pour qu'il y ait l'émergence d'un candidat hors système, il faut qu'il y ait médiatisation de masse. Et alors vous faites un travail assez intéressant, vous expliquez que le biais de la société du selfie infuse aujourd'hui les médias traditionnels. C'est ce que démontrent, par exemple, dites-vous, les meetings des stars populistes comme Griot ou comme Trump. Et vous dites quelque chose de terrible, c'est Luc Rouban qui le dit dans votre ouvrage, vous le citez, « Le nivellement des invités sur le plateau télé et radio, et c'est vrai que vous parlez aussi de nous, les médias d'une certaine manière, les médias de masse, créent un mélange des genres préjudiciable au journalisme et à l'expertise. Les médias, j'en termine avec cette citation, ont joué un rôle dans le discrédit de la parole institutionnelle. »
Oui, bien sûr. En fait, j'essaye de décrypter tout ce qui fait qu'on arrive à cette ère que l'on vit aujourd'hui où tout se vaut. Pourquoi tout se vaut aujourd'hui? Pourquoi on met le ministre de la Santé face à une anonyme complotiste, à une heure de grande écoute sur une chaîne d'info en continu? Et pourquoi personne n'y voit aucun problème? Enfin, vraiment, on est dans les médias depuis longtemps. Il y a 10 ans, c'était impossible, une telle programmation. Aujourd'hui, on peut appeler, c'est ce que j'explique dans l'enquête, on peut appeler France Inter, pour ne pas la citer, et dire « Bonjour, je suis complotiste, je voudrais poser une question à M. Salomon. Allez-y, sans que personne ne relève le problème
d'un questionnement. » Tout à fait franc, parce que j'ai lu ce moment de votre livre, je pense qu'au standard, la personne n'a pas dit qu'elle était complotiste. Elle le dit ensuite
à
l'antenne
quand
elle passe à l'antenne.
Enfin, quand même, il faut quand même faire la différence. Aujourd'hui, on ne fait plus de différence. On a François Hollande qui répond à Leonarda, Leonarda qui lui répond via une chaîne d'info. Donc ça, on est habitué à ce monde-là. Et c'est vrai qu'en fait, on a tout un système d'information qui va plus vite que les institutions.
Et ça, ça participe,
et c'est inédit,
à casser l'échelle d'une forme de hiérarchie et donc une forme
évidemment,
y a plus aucune... rapport à l'institution.
Oui, il n'y a plus aucune hiérarchie. Et puis, c'est aussi le rapport aux élites qui est bouleversé. Et donc, dans cette course un peu à l'ego, on peut se dire « pourquoi pas moi ?» C'est ça aussi que pose la question.
Vous citez d'ailleurs à propos ce qu'avait théorisé l'Italien Antonio Gramsci, qui était communiste, marxiste, l'hégémonie culturelle, morale et intellectuelle comme moyen pour une classe d'accéder au pouvoir au-delà de la simple bataille économique.
Bah oui, évidemment, et c'est ce qu'avait compris Steve Bannon avec Donald Trump, c'est ce qu'ont compris beaucoup de populistes. Parce que le populisme, on ne l'a pas cité, moi il me semble que, c'est assez marrant d'ailleurs ce que je vous écoutais, moi il y a une définition du populisme qui est pour moi la colonne vertébrale, c'est qu'on fait du marketing politique, c'est-à-dire que l'offre politique répond à la demande. L'offre politique est calquée sur la demande. C'est ce qu'a fait BP Grillo avec un site internet où en gros il prenait les dix commentaires qui faisaient le plus de likes, il en faisait une synthèse et puis ensuite il reprenait ses mots dans sa propre écriture en le signant, voyez. Donc en fait il prenait les idées des internautes, voilà. Et c'est ce problème, c'est que ce marketing politique est en train de faire tache d'huile et de toucher aussi les politiques. C'est l'hypothèse, voilà.
La guerre de l'information et le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, via les outils numériques, les réseaux sociaux, on est en train de déstructurer le message politique et la cohérence d'une certaine pensée intelligente, j'allais dire.
Oui, pas guerre de l'information, j'emploierai pas l'expression guerre de l'information parce que je réserve le mot guerre pour les vrais conflits. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais à l'avenir, la question de la responsabilité des plateformes sera fondamentale. Responsabilité financière, responsabilité pénale, en tout cas responsabilité pour le contenu. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus, je l'espère, ils ne pourront plus prétendre que ce sont de simples carrefours où circulent les avis de toutes sortes, sans aucune hiérarchie. Et de ce point de vue-là, on peut espérer que les législateurs des différents pays, notamment en France et notamment au niveau européen, réussiront à rattraper leur retard sur cette évolution technologique. Parce qu'on a l'impression qu'on a toujours une étape de retard par rapport à la dissémination de ces nouveaux outils technologiques et par rapport à leur popularisation.
Il y a peut-être juste un élément. Je réfléchissais pendant que vous me parliez, Piotr Smolar. Je réagissais pour terminer, il nous reste quelques secondes, à Laetitia Krupa, ce que vous développez dans votre livre sur l'émergence d'un clown. Il y a quand même un contre-exemple par rapport à cela, c'est le mouvement des Gilets jaunes, où on a eu tout d'un coup un mouvement déstructuré, un mouvement populaire, d'une colère très forte, avec des accents parfois populistes, mais aucune figure n'en a émergé.
Non, ils n'ont pas voulu avoir de leader. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques du mouvement Gilets jaunes. Mais qui vous dit, Julien, que la France Gilets jaunes, pour vraiment grossir le trait, n'a pas envie de voter pour un candidat apolitique ? Personne n'est capable, pour le moment, d'identifier, de définir, de quantifier cette France-là. Voilà, comme on a été au lendemain de l'élection de Trump, ébahi devant une Amérique qu'on n'avait pas vue et qui était passée sous les radars traditionnels. Oui, moi, je vous dis juste que le clown peut peser dans la campagne à cause de ses méthodes, à cause de son style, et peut, même s'il ne remporte pas à la fin le trône et l'Élysée, mais il peut peser de façon définitive s'il fait entre 15 et 20%, je vous assure qu'il peut être faiseur de roi.
Alors, comme Piotr Smolar m'a dit, je refuse de faire des prévisions à plus d'un mois. On se donne rendez-vous un mois avant la présidentielle, puis vous me direz vos pronostics.
Avec
merci
plaisir,
infiniment. Je rappelle votre livre, Laetitia Krupa, La tentation du clown. C'est aux éditions Bûcher Chastel. Et puis Le Monde en 2040, vu par la CIA, un monde plus contesté, avec votre préface, Piotr Smolar, aux éditions Équateur Documents. Merci également à Michel Vivorca de nous avoir accompagnés.
Europe 1, Julien Bugier.
19h51, on marque une pause. Dans quelques secondes, le Club des idées se poursuit avec les archives. Et ce soir, on vous racontera l'histoire secrète de l'arrestation du dignitaire nazi Adolf Eichmann. A tout de suite. La suite du Club des idées, 19h53, avec les archives. Évidemment, quand le passé éclaire le présent, ça s'appelle le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Avec Victor Chabert ce soir. Bonsoir Victor.
Bonsoir Julien.
Alors on va revenir avec vous sur un événement digne des plus grands romans d'espionnage. La capture du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann. Il est l'organisateur de la solution finale, responsable de la mort de 6 millions de juifs. 11 mai 1960, les services secrets israéliens vont le capturer en Argentine.
Oui, ce soir-là, Adolf Eichmann rentre de son travail. Il est contremaître dans une usine Mercedes. Il habite une maison sans eau ni électricité dans les faubourgs de Buenos Aires. L'ancien SS descend d'un bus à quelques dizaines de mètres de chez lui. Les agents du Mossad l'attendent. Ils l'interceptent, le roulent dans une couverture et le jettent dans le coffre d'une voiture. Mais c'est le 26 mai 1960, 15 jours plus tard, que la police israélienne reconnaît son arrestation.
Je savais qu'un jour ou l'autre, cela m'arriverait. J'ai retrouvé maintenant ma tranquillité après avoir connu pendant 15 ans une tension inhumaine. C'est donc pour moi un soulagement que d'être tombé entre les mains de la police israélienne. C'est ce qu'a déclaré Adolf Eichmann aux policiers qui ont commencé son interrogatoire. L'homme est toujours gardé dans le plus grand secret. C'est un communiqué officiel qui vient de nous faire part de ses déclarations.
Il est donc détenu en Israël, mais cette traque commence en 1945 et à ce moment-là, il a complètement disparu.
Dès le procès de Nuremberg, le rôle d'Eichmann est établi. Il n'est pas un simple exécutant de la solution finale. Il l'a pensé, réfléchi, mais impossible de retrouver sa trace. Il va y avoir plusieurs pistes. Les Israéliens en font leur cible principale. Et en 1957, le fils d'Eichmann flirte avec une jeune Allemande en Argentine. Sa famille a fui pour échapper au régime nazi. Le père de cette jeune fille fait le rapprochement avec le colonel nazi et l'information va remonter au Mossad.
Mais à l'époque, il n'y a pas moyen de l'extrader, il n'y a pas de liaison aérienne.
Effectivement, le Mossad mettra 2 ans dans la clandestinité la plus totale en Argentine à l'identifier et planifier sa capture. Et ils vont attendre un événement. Les 150 ans de l'indépendance du pays sud-américain, une délégation israélienne est invitée, un avion est donc affrété spécialement, c'est le moment ou jamais. Eichmann est drogué, ils lui font un faux passeport israélien, l'habille en personnel de la compagnie aérienne, il s'envole pour l'État hébreu le 20 mai.
Et le 11 avril 61, c'est le début de son procès, un événement historique qui va attirer les foules.
Oui, car il doit permettre aux familles de 6 millions de juifs tués de regarder leur bourreau répondre de ses actes. Georges Leroy, reporter d'Europe numéro 1, est à Jérusalem, devant les portes du tribunal. Il interroge la foule.
Quelle impression cela vous fait ?
C'est assez considérable pour moi de pouvoir enfin voir celui qui a fait souffrir tant de juifs, amener au tribunal et être justement dans le box des accusés. C'est une chose que je ne voulais à aucun prix manquer.
Le procès sera retransmis à la radio, à la télé. Il y aura 2 fois plus de journalistes qu'à Nuremberg. Adolf Eichmann comparé pour crime de guerre, crime contre l'humanité et crime contre le peuple juif. Marc Hillel, pour Europe numéro 1, nous raconte les derniers mots de l'ancien SS, 8 mois après le début de son procès.
Le public semble déçu par le manque de courage de l'ancien colonel SS. Eichmann termine son exposé. Ce sont ses derniers mots on ne l'entendra plus jamais. Il dit...
Das ich hier für andere herhalten muss. Ich habe zu tragen, was das Schicksal mir auferlegt.
Je ne suis pas le monstre qu'on essaie de présenter. La raison est que d'autres se servent de moi pour échapper à la justice.
Eichmann plaidera qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Les preuves montreront le contraire. Condamné à mort, il est pendu le 31 mai 1962 dans la cour de la prison de Ramla. Ses cendres sont dispersées en Méditerranée.
Merci Victor pour ce récit absolument passionnant, cette page d'histoire. Mais merci à vous Victor.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57 dans un instant, Julien Pierce pour le rappel de l'info. Et puis on retrouve Émilie Mazoyer pour son émission. Salut Émilie.
Salut Julien.
Alors ce soir, qui sont tes invités ou ton invité?
Alors ce soir, on est forcément thématisé un petit peu reggae, puisque aujourd'hui c'est Bob les 40 Marley. Ans de la mort de Bob Marley. Voilà, donc on écoutera en live ce cher Bob Marley. Et puis en studio avec nous, il y aura un des plus gros groupes reggae français, Sinsémilia, qui eux fêtent leurs 30 ans.
On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.
Ça aussi, ça rappelle des souvenirs.
Mais carrément, les francophonies 98, genre.
J'en étais sûre. Voilà, Sinsé, ce soir, les 30 ans sur Europe 1.
Merci beaucoup, Émilie. On sera au rendez-vous, évidemment, comme chaque soir. À demain. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 18h. Julien Pierce pour le rappel de l'info dans quelques secondes.